Vincent, qui est médecin ophtalmologiste et qui est vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée, qui va traiter de bioéthique avec une question que nous reverrons dans quelques secondes. Alors pourquoi la libre pensée se préoccupe-t-elle de bioéthique? Disons qu'au départ, nous sommes une association philosophique. Et la philosophie, c'est étymologiquement philo, je recherche. Sophia, la sagesse. Or, si la sagesse a d'abord été le savoir, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant en science ou de l'ordre de la croyance, et donc de ce point de vue-là, la libre pensée s'intéressait fortement à la question. On sait néanmoins que tout savant n'est pas toujours heureux, et que donc la sagesse, ça n'est pas seulement la question du savoir, c'est aussi comment la question du bonheur, mais aussi comment cohabiter paisiblement, quelles que soient nos options philosophiques. Et qui dit cohabiter paisiblement dit le terme de morale. Donc comment se fait-il que ce soir ce soit la bioéthique et non pas la morale? Donc si à l'origine le terme éthique désignait une manière de vivre et donc la question du bonheur, bien que bon, l'étymologie soit éthos, mœurs, habitude, et on considérait que la morale était davantage de l'ordre de l'interdit, le permis de l'interdit, avec bien entendu le corollaire que sont les lois, et donc la philosophie politique. Il ne suffit pas d'avoir des valeurs morales, encore faut-elle qu'elles soient transcrites dans les lois pour qu'on puisse essayer de faire avancer les choses. Néanmoins, de plus en plus, le terme éthique est pris dans le sens moral. Et lorsqu'on a affaire à des lois de bioéthique desquelles va traiter Michel, c'est bien le sens moral. Faut-il autoriser ou non un certain nombre de choses? Et donc, c'est de ça que Michel va nous entretenir. Et donc, je lui donne la parole en la remerciant encore.
Eh bien, écoute, Patrick, je te remercie. Alors, je vais essayer de répondre. Si vous ne m'entendez pas, je vais essayer de parler fort, mais ce n'est pas toujours facile. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées. Tout d'abord, je remercie le Comité laïque du Nord de m'avoir invité. Je ne sais pas si je suis spécialiste de l'éthique. En tout cas, j'interviens ici en tant que... Alors, médecin spécialiste, c'est une chose, mais ma profession, je l'oublie très fréquemment quand je prends la casquette de libre penseuse. Et c'est surtout avec cette casquette de libre penseuse que je vais intervenir aujourd'hui. Donc pourquoi la libre pensée, comme l'a dit Patrick? Tout simplement parce que la libre pensée est avant tout rationaliste et qu'elle ne se base que sur la réflexion rationaliste. Alors pour revenir à ce que tu viens de dire tout de suite par rapport au bonheur, j'ai retrouvé dans un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Santé publique, du biopouvoir à la démocratie » une phrase qui va vraiment compléter ton propos, qui dit « il ne suffit pas », et ça va compléter mon propos d'aujourd'hui, puisque je vais beaucoup travailler autour de l'embryon et de la recherche sur l'embryon, « il ne suffit pas de produire de la chair humaine pour qu'elle vive, il faut à l'homme une raison de vivre ». Je crois que ça résume absolument tout ce que je vais dire ce soir, et en tout cas, ça en résumera une grande partie. Tout d'abord, enfin avant toute chose, je suis très, très émue et très impressionnée du nombre de gens qui sont dans cette salle, et principalement de jeunes, et je suis vraiment très impressionnée d'intervenir devant eux. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir devant des publics aussi jeunes, et j'espère que mon intervention sera à la hauteur de leurs espérances. En tout cas, je vais essayer de m'y atteler. Pourquoi on s'intéresse à la bioéthique en ce moment et pourquoi on s'intéresse aux lois sur la bioéthique? C'est que tout simplement, il y a actuellement une révision des lois bioéthiques. Donc on va revenir tout le long de cette intervention sur ce que sont les lois bioéthiques et surtout les lois qui touchent le domaine particulier de la bioéthique, c'est-à-dire l'embryon, la recherche sur l'embryon, la fécondation in vitro et tout ce qui y a trait, avec tous les dangers que ça comporte pour l'avenir et principalement sur les droits à l'IVG, puisqu'il est bien évident que si on remet en cause aujourd'hui les lois bioéthiques de la recherche et de la fécondation in vitro, c'est aussi parce que derrière, il y a une idée qui est quand même toujours présente dans un certain nombre des institutions en France, c'est de remettre directement en cause le droit à l'IVG, le droit à l'interruption volontaire de grossesse. On va y revenir tout au long de cette... Je pense qu'on y reviendra d'ailleurs, surtout dans le débat après. Alors, pour vous montrer que je suis d'abord libre-penseuse, je vais commencer par une remarque qui va nous faire entrer dans le vif du sujet. C'est, on n'a aucun doute d'ailleurs, quand on lit la réaction indignée du Vatican à l'annonce de la nomination de Robert Edwards pour le prix Nobel de médecine. Vous savez que le prix Nobel de médecine, donc Robert Edwards, le prix Nobel de médecine 2010, est l'inventeur de la technique de la fécondation in vitro. Au Vatican, ça a beaucoup remué. On n'a pas beaucoup apprécié cette nomination. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va en dire long, enfin, ça confirmera tout ce que je vais vous dire, ça en dit long sur les positions de l'Église catholique sur le sujet, et ça va nous permettre d'aborder un certain nombre de problèmes qui sont posés ici, entre autres sur la composition des comités d'éthique chargés de donner leur avis sur tout ce qui concerne le bio, c'est-à-dire le vivant, et en ce qui nous concerne, le vivant de la fécondation à la mort. Alors je parlerai beaucoup ce soir de l'embryon et de la recherche, etc. Et je vous invite d'ailleurs à la sortie à consulter ce petit ouvrage qui est sorti l'année dernière par la Libre Pensée, puisque la Libre Pensée a organisé un magnifique colloque sur la recherche sur l'embryon humain, où il y avait un certain nombre d'intervenants prestigieux comme Axel Kahn, et j'en passe, et on en parlera aussi. Je vous invite à vraiment compulser ce bouquin. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ce problème de tout ce qui concerne la naissance. Hein, la naissance en général, je travaille beaucoup avec le planning familial, mais je m'intéresse aussi beaucoup à un autre sujet qui est la mort. Et donc, on s'aperçoit au fond que tout se recoupe et que les choses ne sont pas si éloignées les unes des autres. En tout cas, c'est en général les deux domaines qui aujourd'hui sont le domaine de prédilection des comités d'éthique, des églises en général. Pourquoi ? Ben parce qu'il faut bien le dire, l'Église, encore en France, pays laïque, se considère encore et toujours comme le conservatoire de la morale pour tout ce qui touche la vie, le sexe, la mort, et tente de nous imposer sa conception, et je vous le disais, au mépris total de la séparation des Églises et de l'État, qui aujourd'hui sont quand même la base de la Constitution française. Donc ce qu'elle impose, c'est une morale fondée sur le dogme, mais en aucun cas une morale qui aurait une valeur universelle. Donc nous allons le voir, les comités d'éthique ont une forte connotation religieuse, je vous en donnerai la composition tout à l'heure de manière relativement brève, mais je voudrais, avant de continuer, revenir à quelques phrases savoureuses donc, du Vatican au moment de la nomination de ce pauvre monsieur Robert Edwards. Alors le président de l'Académie pontificale pour la vie, Monseigneur Ignacio Carrasco de Pola, qui s'occupe au Vatican des questions d'éthique et de la défense de la vie. Et vous allez voir que tout au long de ce que je vais vous dire, ça se recoupe à chaque fois. Les questions d'éthique et de défense de la vie, on est toujours dans la défense de la vie. Donc ce Monseigneur Carrasco de Pola a vivement critiqué le choix du père de la fécondation in vitro pour le prix Nobel de médecine 2010. Alors, ce cher monsieur Carrasco di Pola nous dit « Sans Edwards, il n'y aurait pas dans le monde un grand nombre de congélateurs remplis d'embryons. Sans lui, il n'y aurait pas un marché où sont vendus des millions d'ovocytes. » Et vous allez voir dans ce que je vais vous dire après, dans ce que disent Axel Kahn, Israël Nissan et d'autres, c'est une contre-vérité absolue. Dans le meilleur des cas, poursuit-il, ceux-ci attendent d'être transférés dans des utérus, mais plus probablement, ils finiront par être abandonnés ou par mourir, ce qui est un problème dont est responsable le nouveau prix Nobel de médecine. En outre, il ajoute, sans Edward, la procréation assistée ne serait pas dans l'état de confusion dans lequel elle se trouve, avec des situations incompréhensibles d'enfants nés de grand-mères et de mères porteuses. Il parle du sacrifice des embryons et il dit « Je trouve le choix de Robert Edwards complètement hors de propos et les motifs de perplexité sont nombreux. » Et il continue « Edwards n'a pas résolu le problème de l'infertilité qui est un problème grave, ni du point de vue pathologique, ni du point de vue épidémiologique. Il faut attendre que la recherche aboutisse à une autre solution qui soit en outre moins coûteuse et donc plus accessible que la fécondation in vitro qui nécessite des frais énormes. » L'Académie pontificale donc pour la vie a notamment, il faut le dire, mission d'étudier les principaux problèmes biomédicaux et juridiques relatifs à la promotion et à la défense de la vie. Le Vatican accepte depuis fin 2008 seulement la fécondation assistée, mais il considère comme moralement illégale la fécondation in vitro en raison du sacrifice du nombre très élevé d'embryons. En effet, pour l'Église, la fécondation, la vie commence dès la fécondation. L'âme est insufflée dès la fécondation, vous allez le voir dans quelques minutes. Alors, pour gagner un petit peu de temps et pour ouvrir un petit peu plus de place au débat, je vous passe un certain nombre de définitions qui sont peut-être nécessaires de donner, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus loin dans la discussion. Alors, nous l'avons vu, nous le pensons, la bioéthique avec ses comités se déploie aujourd'hui dans deux domaines privilégiés, c'est le bio, le vivant ou le mort. Hein, il est bien évident que les comités d'éthique travaillent aujourd'hui sur les lois pour une aide active à mourir. D'ailleurs, ils n'ont jamais résolu le problème, nous allons le voir. Mais leurs deux domaines de prédilection, c'est la naissance et la mort, les deux moments les plus importants de la vie. Donc, comme je vous le disais, je vais essayer de développer beaucoup plus largement le domaine de l'embryon et, je vous le précisais, à cause des chantiers de loi bioéthique. Alors, autour de la naissance, donc, bien entendu, tout ce qui touche la naissance va toucher par extrapolation tout ce qui a une relation avec la vie depuis la fécondation, et donc la naissance, l'embryon, les recherches, les possibles recherches sur les cellules souches dans un but thérapeutique, soit donc les fécondations in vitro, mais aussi, je vous le disais, le droit à l'IVG, le droit direct à l'IVG, qui aujourd'hui pourrait être largement remis en cause. Et là, ce n'est pas la libre pensée qui le dit, ce sont Israël Nizan, ce sont Axel Kahn et ce sont Pierre Joinet, donc qui sont quand même aujourd'hui les maîtres à penser dans le domaine de la fécondation in vitro, et ce n'est pas rien. Donc, par rapport à la mort, je vous le disais, la discussion donc, des comités d'éthique et de ces lois bioéthiques, les discussions sans fin pour une aide active aux mourants, alors c'est tout ce que je vous dirai par rapport à ça, on pourra le développer éventuellement dans le débat, dans les conditions précises, évidemment, qui requièrent la plus grande précaution dans le respect le plus total de la liberté de conscience, continuent à traîner et évoluent de manière trop lente et surtout avec une hypocrisie totale, puisqu'il y a derrière cette bioéthique, je dirais, puisqu'il y a derrière ce non-débat, la même volonté, celle de refuser d'entendre une autre conception de la vie, de la mort et de la morale de l'individu. Donc je crois qu'il faudra qu'on en discute aussi pendant le débat. Puisque tout simplement, ces deux domaines, que ce soit la naissance ou la mort, en tout cas ce qui entoure la naissance, ce qui entoure la mort, sont l'application directe de la liberté de conscience et du droit absolu de l'individu à disposer de son corps, ce qui est toujours largement remis en cause, par les églises en particulier. Donc, dans ce débat, les églises vont gommer quelque chose qui est très important aussi, que ce soit par rapport à la naissance ou par rapport à la mort. Ils vont noter, ils vont volontairement gommer une dimension philosophique quand ils vont parler du caractère sacré de la vie, tout simplement, et c'est ce qu'on retrouve dans la loi Leonetti sur le laisser mourir. Leonetti, quand il a promulgué sa loi sur le laisser mourir, oublie une dimension très importante, c'est la distance qu'il existe entre la vie du point de vue symbolique et la vie qui se résume simplement à sa part biologique. Le problème sera le même en ce qui concerne l'embryon ou le fœtus, surtout quand on parle d'interruption volontaire de grossesse. L'embryon ou le fœtus, dans la législation, ne sont pas des êtres symboliques. Ils sont, il faut bien le savoir, simplement des projets parentaux. au stade embryonnaire, un embryon n'est que le projet qu'on voudra bien en faire, et nous allons le voir dans ce que disait Axel Kahn. Donc, quelques mots. Alors, il y a un domaine sur lequel je suis assez réticente, qui mériterait qu'on en discute, et c'est vrai que c'est pas évident de le gérer, et c'est pas évident de donner une réponse, c'est le problème de la gestation pour autrui. Il y a certaines positions qui sont extrêmement catégoriques pour les mères porteuses, la gestation pour autrui. Alors je sais qu'au planning familial, par exemple, il y a un certain nombre d'oppositions très farouches à cette idée de la gestation pour autrui. Je me pose la question, et on pourra aussi l'aborder, est-ce qu'on doit légiférer pour l'interdire? Est-ce qu'on doit légiférer pour l'encadrer? La seule chose que je peux dire, c'est que dès lors qu'il y a accord entre adultes consentants, conscients de leurs actes, avec derrière cela une notion de solidarité, sans intérêt financier, hein, je précise bien, sans autre choix pour une femme, alors, c'est-à-dire que bon, si il faut pas que la femme qui sera la mère porteuse n'ait d'autre choix de le faire pour, enfin en tout cas pour de l'argent, sans autre choix donc pour une femme de vendre son corps pour un couple riche et stérile entre autres, dès lors qu'il n'y a ni obligation ni contrainte de part et d'autre, on peut se poser la question, est-ce moral, est-ce humain? Et je prendrai volontiers pour ce cas précis une citation qui me paraît parfaitement adaptée. Dans ce cas-là, c'est que ce choix soit quelque chose d'extrêmement individuel et qu'il soit toujours fait dans la liberté d'une indépendance hors laquelle il n'est pas dignité humaine. C'est que ce choix ne soit jamais dicté ouvertement par la force, sournoisement par l'autorité, obliquement par l'intérêt, c'est qu'il soit libre au sens le plus profond de ce mot. J'ai repris cette phrase-là, c'était une phrase de la Ligue de l'enseignement d'il y a quelques années, et je pense que ça, c'est vraiment très important. C'est la seule réflexion que j'ai pu avoir par rapport à ce problème des mères porteuses, qui effectivement mérite une grande discussion, mais en tout cas, si toutes ces conditions sont réunies, l'acte... On peut penser que c'est l'acte le plus humaniste, le plus solidaire qu'une femme puisse offrir à une autre femme ou à un autre couple. Et voilà, c'est toute la réflexion que j'ai eue par rapport à cette chose très précise qu'est la fécondation, qu'est la mère porteuse, enfin la fécondation, la gestation pour autrui. Par contre, pour tout ce qui domine, enfin tout ce qui concerne le reste, c'est-à-dire la recherche sur l'embryon, la fécondation in vitro, les diagnostics prénataux, les diagnostics préimplantatoires, faut-il légiférer? Et pourquoi, à la libre pensée, nous contestons au comité d'éthique leur légitimité dans ce combat pour ce qui concerne la recherche scientifique sur l'humain? Alors, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et que je me suis largement inspirée pour cette réflexion, je vous le disais, du travail du colloque de la libre pensée et entre autres beaucoup de ce que nous a dit Axel Kahn qui, je le pense, est connu de tout le monde ici. Alors, tout d'abord, Axel Kahn posait la question « Qu'est-ce qu'un embryon humain ?» Alors, il donne une réponse qui est intéressante. L'embryon humain a deux caractéristiques. D'abord, c'est un embryon, et ensuite, il est humain. D'abord, embryon. C'est un état. Qu'est-ce que l'embryon ? C'est un état de développement qui, par lui-même, dans des conditions favorables, peut ou pourrait donner un être achevé, et cela indépendamment des méthodes utilisées pour le constituer. Ça peut être la reproduction sexuée des mammifères, donc de l'être humain, ou même la division par scissiparité des bactéries. C'est un embryon possible. Tout ce qui n'a pas de chance d'aboutir à un être achevé n'est pas un embryon, et c'est le cas des cellules souches embryonnaires. On va le voir un petit peu plus loin. Ensuite, il est humain, pour la simple et bonne raison, qu'il correspond à un état de développement qui a la potentialité de devenir humain. Axel Kahn nous précisait, il ne sera ni une chèvre, ni un chat, ni autre chose. Il sera bien un être humain s'il se développe. Alors, le débat sur l'embryon n'est pas quelque chose de récent, bien entendu. Ça fait depuis des millénaires qu'on se pose la question de qu'est-ce que l'embryon. D'abord, ça a commencé très tôt, à un moment où le système matriarcal était le système dominant, jusqu'au néolithique moyen, et là où on pensait que la mère était la seule responsable de la naissance des enfants. Et petit à petit, le rôle du père s'est imposé dans l'idéologie. Donc vous voyez que tout ça, ça remonte à très très loin. Ça remonte même bien avant la civilisation, les civilisations dites antiques. Mais les questions se sont réellement posées à partir d'Hippocrate, et c'est Aristote qui va être la référence fondamentale pour la conception, dans la conception d'ailleurs, de l'embryon des religions monothéistes actuelles, encore aujourd'hui en vigueur. Donc c'est encore la conception d'Aristote qui est en vigueur dans la religion juive et dans la religion musulmane. Alors pour Aristote, il existe un principe d'animation qui permet à l'embryon de se développer d'abord en une âme végétative puis animale, nutritive puis intellective, qui va apparaître, alors je vous le donne en mille, à 40 jours chez le mâle et malheureusement 90 jours chez la femelle, chez la fille. Cherchez l'erreur. Alors pour les chrétiens, le débat sur la nature de l'embryon seront dès le début particulièrement passionnés, on s'en doute bien, ils le sont encore et toujours. Vous avez bien vu la réaction du Vatican par rapport à ce pauvre Edwards. Donc pour les chrétiens, ils vont imaginer intégrer immédiatement la notion d'une humanité dès la fécondation. Donc on le voit, dans les religions juives et musulmanes, les choses sont différentes puisque ça n'apparaît qu'au 40e et au 90e jour selon le sexe. En effet, les chrétiens avec Saint Clément au 1er siècle vont imaginer que l'âme est insufflée dès la conception. Alors tenez-vous bien, et serait même directement proportionnelle à l'intensité de l'orgasme masculin. Alors messieurs, et bien entendu apporté par la semence mâle, évidemment. Les femelles à cette époque-là n'ont pas grand-chose d'humain, elles ne sont que des réceptacles, elles sont bien entendu toujours considérées comme des êtres parfaitement inférieurs. Alors saint Augustin, lui, va rejeter la thèse de saint Clément, tout simplement parce que saint Augustin n'avait pas toujours été un saint, paraît-il, et sachant qu'il avait copieusement copulé, il savait que toute relation n'aboutissait pas à une fécondation, il s'en était bien rendu compte, sinon visiblement il aurait repeuplé la terre entière. Alors cela sous-entendait que, puisque visiblement il avait beaucoup joui quand même, ça sous-entendait que beaucoup d'êtres non aboutis se baladaient dans la nature, mais avaient quand même une âme. Donc c'était un peu complexe pour lui. Il était bien évident que pour être en paix avec sa conscience de chrétien, il est obligé de reprendre en quelque sorte la théorie d'Aristote du développement progressif de l'âme. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin va entériner cette vision de l'âme d'origine divine qui ne peut prendre assise dans le corps que lorsque celui-ci peut l'accueillir, et il va reprendre aussi l'affirmation de l'âme insufflée à 40 jours pour les garçons et à 90 jours pour les filles. Ce n'est sous Pie IX en 1869 qu'apparaît la conception actuelle de l'Église sur l'embryon. L'Église catholique, je le précise, bien entendu. Alors, la conception de l'Église qui dit « Nous ne savons pas ce qu'est l'embryon, ni exactement quand l'âme vient au corps, et puisque nous ne le savons pas, le doute doit profiter à l'embryon. Nous devons donc faire comme si l'embryon est une personne humaine dès sa conception. » Et les choses n'ont pas changé. Si vous entendez aujourd'hui ce que dit Benoît XVI, les choses n'ont pas bougé d'un iota par rapport à cette vision de l'embryon. Alors, cette conception tient en tout état de cause de la vérité révélée, si elle est une pensée réfléchie par les intellectuels et par des hommes d'une grande subtilité, que sont les gens qui réfléchissent au Vatican, on ne met absolument pas en doute leur intelligence, elle est toujours soumise au dogme religieux et donc au service du dogme. On arrange, et vous l'avez vu avec Saint-Augustin, on arrange l'idéologie pour qu'elle colle au dogme. Cela montre à quel point idéologie religieuse et rationalisme sont le plus souvent incompatibles et sont d'ailleurs, je le dirais, même plutôt toujours incompatibles. Alors revenons à Axel Kahn, donc qui pose encore la question, puisqu'Axel Kahn lui aussi pose beaucoup de questions. Quand l'embryon devient-il humain ? Donc est-ce que poser la question quand l'embryon devient-il humain est légitime ? La véritable interrogation doit être à partir de quel moment de son développement devrait-il être dépositaire d'une dignité exigeant de le respecter comme un individu. Du point de vue scientifique, il n'y a pas de définition de la dignité, et donc pour un scientifique, cette question ne doit pas se poser. Ce que va se poser comme question scientifique, c'est qu'est-ce qu'un être humain, et se demander à partir de quelle relation il existe entre cet objet biologique qu'est l'embryon et ce qualificatif par destination, il peut devenir une personne humaine. Donc à partir de ces considérations, les questions sont vastes, mais les réponses le sont tout autant, et vont forcément dépendre, je le disais tout à l'heure, du désir parental. Selon que l'embryon est un projet parental de créer un enfant ou que l'embryon n'est pas dans les projets du couple qui peut effectivement aboutir à une interruption volontaire de grossesse. Et dans le cas de nos projets, Axel Kahn insiste bien, et bien d'autres d'ailleurs, hein, puisque Joannet le dit aussi, Israël Nissan le dit aussi, dans le cas où il n'est pas un projet, et entre autres dans le cas des fécondations in vitro et de ces embryons, ces millions d'embryons congelés, comme le disait Monseigneur Carrasco, etc., il pourrait alors être considéré comme un matériel biologique et être utilisé, d'autant plus qu'il faut préciser une chose qui est quand même importante à dire, c'est que toute la recherche aujourd'hui sur l'embryon se fait au stade 4 cellules. Hein, elle ne se fait pas au stade d'un embryon qui a déjà développé un système nerveux. C'est 4 cellules ou 8 cellules maximum. Donc il est bien clair qu'on peut se poser la question de la raison pour laquelle on s'arc-boute sur cette interdiction du travail sur l'embryon. Alors donc pour Axel Kahn, et il le précise bien, la vraie humanité de l'embryon pourrait être établie à la nidation au septième jour, c'est-à-dire quand se forgent les liens anatomiques avec la mère. Pour d'autres, c'est à partir de l'ébauche du système nerveux central, à partir du 14e jour. Donc toutes ces propositions, dit Axel Kahn, sont à la fois raisonnables et non raisonnables, car il faut savoir que ce sont seulement un quart à un tiers des embryons qui vont aboutir à un être humain, qui vont aboutir à ce projet parental achevé. Même dans les fécondations in vivo, c'est-à-dire que là, il ne parle même pas de la fécondation in vitro, il parle aussi bien de la fécondation in vivo. C'est-à-dire que bon nombre d'embryons qui se sont formés vont mourir de leur belle mort sans avoir une nidification et sans arriver au bout. Donc par ailleurs, pour ce qui est de la recherche, il faut savoir, donc c'est ce que je vous disais, cette recherche se fait uniquement à partir d'embryons surnuméraires qui n'ont aucune chance d'évoluer vers un projet parental. À ce titre, elle ne peut se faire qu'après accord avec les parents potentiels, et c'est à partir de ce matériel que les recherches pourraient être menées, puisque vous allez le voir dans les lois bioéthiques, l'interdiction est encore formelle. Même si l'on considère de manière religieuse ou non ces embryons comme des personnes, demande Axel Kahn, pourquoi faudrait-il s'interdire toute recherche sur l'embryon alors que la médecine progresse? Pourquoi est-ce qu'on ferait de l'embryon un être à part, puisque la médecine progresse grâce aux recherches sur les enfants en pédiatrie, grâce aux recherches sur les vieillards en gériatrie? En quoi l'embryon serait une personne particulière, qu'elle ne pourrait faire l'objet de recherche? C'est la question que se posent tous les scientifiques qui travaillent autour de ce domaine. Pire encore, dit Axel Kahn, si les lois bioéthiques s'efforcent de préserver la personne humaine sur laquelle est la recherche, l'embryon surnuméraire, objet de l'étude ou non, sera, quelle que soit la situation, systématiquement détruit. Donc il est évident que ces embryons vont être détruits un jour ou l'autre. Donc pourquoi ne pas autoriser une recherche, puisque beaucoup le disent, puisqu'il serait plus cohérent d'intégrer cet embryon dans un projet humain, voire humaniste, qui pourrait contribuer à l'amélioration des conditions de survie pour l'homme par les avancées médicales qu'elle pourrait permettre. C'est pourquoi, dit Axel Kahn, on peut dire que l'attitude de l'Église sur ce sujet est indéfendable quand elle s'arc-boute sur une position radicale qui peut influencer les décisions des comités d'éthique. Alors, les lois sur la bioéthique, les lois sur la bioéthique sont des lois relativement récentes. Alors, les lois dites de bioéthique, adoptées en juillet 1994, au terme d'un très long débat parlementaire, ont été révisées le 6 août 2004, alors qu'elles devaient l'être 5 ans après la première loi, vont montrer, on va le voir tout au long de ce que je vais vous dire tout de suite, vont montrer à quel point les contretemps successifs sont symptomatiques de la difficulté, d'une part, à fixer des règles sur un sujet aussi mouvant et perpétuellement remis en question par des nouvelles découvertes. C'est quelque chose qui est évidemment très mouvant. Les découvertes évoluent, la science évolue. Et d'autre part, la difficulté à trouver un consensus politique sur des sujets qui mettent en cause des conceptions philosophiques profondément divergentes de la vie et de la mort. Et je vous le disais, idéologie religieuse qui, à mon sens, reste encore le conservatoire de la morale en ce qui concerne la vie, la mort, le sexe, et qui s'oppose évidemment à une conception rationaliste, celle que défend la libre pensée en particulier. Donc cette conception religieuse qui interdit toute manipulation de l'embryon et toute revendication d'euthanasie, car elle n'autorise ni le scientifique, ni le malade en fin de vie à se comporter comme Dieu qui seul décide de la vie et de la mort. Cette idéologie est toujours l'idéologie qui est mise en avant, et quel que soit le domaine, on aura toujours en face de nous cette idéologie religieuse qui nous opposera le caractère sacré de la vie. Enfin, concernant l'embryon, et dernier symptôme, c'est celui de la peur des dirigeants, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celui de la peur des dirigeants à relancer les débats sur l'IVG. Et on voit bien aujourd'hui les risques que font peser sur la loi Veil les futurs débats sur la recherche sur l'embryon, et j'aimerais bien qu'on en parle dans le débat. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur ce que sont les... Donc, Patrick l'a dit, hein, le mot éthique, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, dès l'origine, la médecine a suscité une réflexion éthique et a commencé par Hippocrate, donc on l'a dit tout à l'heure, qui va fixer des règles de la déontologie médicale. Dans le domaine des sciences, la réflexion éthique va se renforcer après la Deuxième Guerre mondiale et les expérimentations des médecins nazis. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 3, qui va s'inspirer du Code de Nuremberg, qui dit, en ce qui concerne les essais cliniques ou biologiques sur le vivant, qu'ils doivent recueillir le consentement éclairé du patient sur lesquels seront effectués les tests, qu'ils doivent cesser dès lors qu'ils mettent la vie en danger du patient. Dans la Constitution de 1948, il est dit aussi que tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté, et que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements dégradants. L'expérimentation médicale forcée relève donc de cet article. Pourtant, ce cadre juridique international ne répond pas aux nouvelles données de la science et des techniques touchant le vivant, et principalement dans les domaines qui touchent plus spécifiquement l'embryon. Alors, la première loi bioéthique va être celle d'Henri Caillavet de 1976, qui sera relative au don d'organes. Alors, c'est une loi, bien entendu, d'avancée considérable, et on s'en doute bien avec la loi, avec l'influence d'Henri Caillavet. C'est une loi donc considérable qui va permettre le prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne en état de mort clinique. Par contre, sur la recherche sur l'embryon, il faudra du temps. Avant la loi de 1994, il va y avoir, on va s'en apercevoir, plusieurs étapes qui vont évoluer au fil d'ailleurs, je dirais, d'une certaine conscience, et en tout cas d'une certaine vision de la liberté de conscience. Alors en effet, avant la loi de 1994, il va d'abord y avoir une opinion, alors clairement libérale, pas au sens du libéralisme capitaliste, bien entendu, entendons-nous bien là-dessus, mais une vision de la, justement une opinion sur la liberté de conscience qui souhaite laisser aux scientifiques la liberté d'innovation et de recherche, même si elle est soumise aux règles de déontologie des professionnels. Hein, il est bien évident qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi, il y a quand même une déontologie, on le verra plus loin. Elle ne peut être bridée par des cadres législatifs rigides, donc jusqu'à cette période-là, on ne souhaite pas avoir un cadre législatif rigide. Par contre, en ce qui concerne la procréation, là aussi, on doit laisser le champ libre aux décisions individuelles. C'est toujours la liberté de conscience, la liberté individuelle qui va primer. Cette conception va être soutenue par Robert Badinter devant le Conseil de l'Europe en 1985 et par Odette Thibault lors d'un colloque important qui s'était tenu sur génétique et procréation, donc en février 1985. On va donc prôner à cette période-là une abstention législative au prétexte qu'il existe déjà un cadre légal sur la procréation médicalement assistée qu'il peut s'appliquer dans ces conditions. Alors dans le même temps, et je dirais c'est pas ce qu'il a fait de mieux, le président de la République François Mitterrand va mettre en place les comités d'éthique qui n'ont, il faut le dire, aucun pouvoir décisionnaire ou réglementaire, mais qui vont avoir mission de donner leur avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière. Alors les opinions vont changer avec les gouvernements et vont changer progressivement pour arriver à progressivement donc à la loi de 1994. Et cette loi est le reflet des craintes de certains de ce qu'on appelle les risques géniques. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous développer l'eugénisme. Ça mériterait, je suis en train de me poser la question, de travailler sur cette question. Je pense que ça peut faire l'objet d'une conférence entière. Mais les risques génistes, surtout de la méfiance de certains envers la science et les scientifiques. C'est là tout le nœud du problème, c'est la méfiance qu'ont certaines organisations, principalement conservatrices, sur la science et les scientifiques. Dans le même temps, ceux qui s'expriment sur le sujet le font alors dans une attitude extrêmement conservatrice, dont le nœud de la réflexion est bien entendu sous-tendu par une conception traditionnaliste de la famille. Et vous allez voir que les lois sur la fécondation in vitro, entre autres, sont extrêmement implantées dans cette vision de la famille traditionnaliste. Hein, on n'avance pas encore beaucoup sur la possibilité de fécondation pour des femmes homosexuelles, entre autres, etc. Ça avance très très lentement et très difficilement, parce qu'aujourd'hui encore, cette vision qui domine, c'est la vision de la famille hétérosexuelle, traditionnelle, mariée, paxée tout juste, dans la définition d'ailleurs des lois actuelles sur la bioéthique, ce sont des gens mariés ou des gens vivant en couple depuis plus de 2 ans, avec des témoignages et tout ça, qui peuvent bénéficier d'une procréation médicalement assistée. Donc effectivement, on le voit, cette vision très traditionnaliste de la famille est encore aujourd'hui le nœud du problème dans les comités d'éthique et par rapport à ces lois sur la bioéthique. Alors les deux lois de 1994, donc intégrées au Code civil, vont être l'affirmation directe, je vous le disais, de ce courant de pensée traditionnaliste. La première loi est relative au respect du corps humain, qui affirme la dignité de la personne, l'inviolabilité du corps humain. Alors là, on peut quand même, je vais faire une petite parenthèse quand même, on peut rigoler beaucoup quand on voit que c'est l'Église qui affirme l'inviolabilité du corps humain, quand on voit le nombre d'enfants qui ont été violés par des prêtres pédophiles, mais bon, ça compte pas, on peut peut-être pas le dire comme ça. Elle garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, donc dès la fécondation. Et elle condamne toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes. Donc ça veut dire aujourd'hui aussi, elle condamne le diagnostic préimplantatoire. Elle fixe le cadre de l'assistance médicale à la procréation qui doit répondre à la demande d'un couple forcément hétérosexuel, c'est ce que je vous disais, vivant en âge de procréer, marié ou pouvant faire la preuve d'une vie commune depuis au moins 2 ans et dont l'infertilité a été médicalement diagnostiquée. Elle entoure donc l'embryon d'une telle protection qu'elle interdit toute recherche et expérimentation, tout en limitant de manière drastique le recours au diagnostic préimplantatoire alors qu'elle n'interdit pas, et on se demande pourquoi, le diagnostic in vivo. Hein, puisque vous le savez très bien, on peut, chez une femme enceinte, moi je l'ai fait, j'ai eu un fils à 40 ans, donc j'ai eu droit au diagnostic in vivo de... voilà. Et donc, mon fils était parfaitement normal, il est né 9 mois plus tard, dans des conditions tout à fait normales. Alors, cette loi de 94, qui devait être revisitée, révisée 5 ans plus tard, va tarder à se refaire une nouvelle jeunesse. Hein, elle va mettre très très longtemps, et on va ne la revoir que 10 ans plus tard. Elle va reprendre 10 ans plus tard, donc en 2004, les principaux thèmes abordés, et elle n'évoluera pas dans son contenu, voire même elle va coller parfaitement à ce qui a été décidé au plan international avec la conférence générale de l'UNESCO de 97. Alors je vous le disais, cette loi qui devait être révisée en 2010, c'était la raison pour laquelle on avait prévu, donc la commission science avait organisé ce colloque sur la recherche sur l'embryon. Cette loi qui devait être révisée en 2010, eh ben, continue à traîner et il semblerait, alors d'après les dernières, tu as peut-être plus de détails que moi, mais il semblerait qu'elle serait révisée au début de 2011, mais ça reste quand même encore extrêmement, extrêmement douteux. Alors, sur la conférence générale de l'UNESCO, donc la conférence va adopter une déclaration universelle sur le génome, et vous allez voir ce que je vous dis a beaucoup d'importance pour la suite. Elle est droit de l'homme qui affirme dans son article « Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité ». En 2003, donc cette conférence de l'UNESCO affirme la collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation des données génétiques humaines et des échantillons biologiques doivent se faire conformément au droit international des droits de l'homme. En 2005, cette conférence va adopter la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme qui reconnaît l'importance de la liberté de recherche et les bienfaits des sciences et technologies, mais insiste sur la nécessité d'inscrire la recherche dans le cadre éthique. L'UNESCO, tout comme la France, considère donc que la science doit être subordonnée à la morale et que pour ce faire, elle doit être sous le contrôle absolu d'experts de la société civile à l'image de ce que sont les comités consultatifs comité consultatif national d'éthique. Et je pose la question, je vous donnerai la réponse dans quelques minutes, comme si la science était immorale. Alors, je me permets quand même, par rapport à tout ça, et ce n'est pas moi qui le fais uniquement, ça a été la conjonction d'un certain nombre d'ouvrages sur lesquels j'ai travaillé, de faire l'examen critique des fondements philosophico-politiques de la bioéthique. Alors, Patrick le ferait certainement mieux que moi, mais puisque c'est moi qui me suis déplacé du Jura pour venir vous faire sa conférence, c'est moi qui vais faire cette critique de la bioéthique. J'ai failli pas arriver à cause du train, mais je suis très contente d'être là avec vous. Alors, l'évolution des techniques en matière de reproduction humaine a vu naître le droit comme outil d'un biopouvoir fondé le plus souvent sur une vision erronée des processus naturels de la reproduction. En tout cas, ils sont l'expression d'une idéologie proche des idéologies conservatrices et religieuses. La principale notion de ces mesures est celle d'intégrité d'espèce humaine. On parle d'espèce humaine protégée depuis les lois de 94, je vous le disais, avec la confirmation donc de la conférence de l'UNESCO, renforcée par la loi de 2004 qui fait du crime contre l'espèce humaine le crime le plus grave après le crime contre l'humanité. Ça a beaucoup d'importance dans l'éventualité des IVG. Aujourd'hui, si tout ça est reconnu, une femme qui se fait avorter peut être menée devant les tribunaux ainsi que le médecin qui avorte, si on supprime les lois sur l'IVG. Il faut être bien conscient de tout ça. Hein. C'est très très important de dire ça. Alors, depuis quelques années, on met en place, aussi bien en France qu'à l'étranger, des mesures donc voilà théorico-politico-juridiques qui impose la primauté d'un concept biologique de l'espèce humaine sur celui culturel, politique et social de l'humanité. et ça revient à cette petite phrase que je vous ai lue tout à l'heure, il ne suffit pourtant pas de produire la chair humaine pour qu'elle vive, il faut à l'homme une raison de vivre. Hein, ça coupe complètement tout ça. Mais alors, l'espèce humaine est de plus en plus invoquée en tant que valeur fondamentale devant gouverner nombre de dispositions juridiques et politiques dans maints domaines, bioéthique, droit familial, droit individuel, droit à l'IVG et droit à l'euthanasie, par le caractère sacré de la vie qu'elle impose. Alors, deux exemples que je vais donner ici, c'est donc celui du droit à la mort et celui du droit à l'IVG, tous deux fortement discutés par les comités d'éthique et toutes les institutions concernées. Alors, sur le droit à la mort, ben, je vous le disais en introduction avec la loi Leonetti et son laisser mourir. Donc, Leonetti oublie complètement la distance entre la vie symbolique et la vie biologique. En niant la distance entre cette vie biologique et cette vie symbolique, il va surtout nier ce qui fait l'humanité dans sa fonction symbolique. Il va surtout nier cette part de décision individuelle d'un individu libre de son choix, libre de sa conscience. D'autre part, il se met dans une situation de biopouvoir qui va imposer au sujet de vivre contre sa volonté. Il impose par la force ou par le droit ou par la formation d'une forme totalitaire, et le mot n'est pas si fort que ça, le droit du pouvoir à disposer du corps des personnes. Alors, jusqu'à des temps relativement proches, avant la loi sur la peine de mort, enfin aujourd'hui, avec le nombre de guerres qui sont dans le monde, on peut encore dire encore aujourd'hui, le pouvoir avait droit de vie et de mort sur ces sujets. Aujourd'hui, ce pouvoir ne s'exerce plus en France, en tout cas, sur le fait de faire mourir, ce qui était le droit absolu de tout pouvoir, mais sur le fait de faire vivre à tout prix. Il est devenu un biopouvoir. Et sur l'IVG, donc, c'est la remise en cause du droit par la mise en place progressive du statut juridique du fœtus et de l'embryon, ce qui est recherché aujourd'hui. Ce que demandent aujourd'hui un certain nombre d'institutions, c'est donner statut juridique au fœtus et à l'embryon, donc cette protection totale de l'embryon. C'est bien la reconnaissance de la protection d'une espèce humaine et de son expression génétique qui prime devant l'importance d'une décision individuelle d'une mère qui n'est pas en mesure matérielle d'élever son enfant. C'est aussi, pour nous, l'affirmation autoritaire du pouvoir de faire vivre qui s'exprime ici et qui est bien expliquée par ce que Benoît XVI affirme quand il dit « La conscience chrétienne doit militer en faveur du droit à la vie. C'est un droit qui exige d'être soutenu par tous parce que c'est un droit fondamental » par rapport à d'autres droits humains. Et ça rappelle aussi ce que disait le père Nedneuf dans les grands débuts des luttes pour le droit des femmes, et entre autres dans les années 60, quand sont nés les premiers plannings familiaux, et entre autres le premier planning familial à Grenoble, avec notre camarade Henri Fabre. Le père Nedneuf disait « L'idée que par suite de difficultés de logement ou de raisons économiques, il sera difficile d'élever des enfants, ne vient même pas à l'esprit. Car la famille, si misérable soit-elle, existe tout de même. Même si l'enfant meurt de faim, il mourra entouré de tendresse, ce qui est mieux que de mourir anonymement avant la naissance. Le traumatisme, la blessure de la contraception est autrement plus grave. L'enfant meurt de malnutrition, mais son souvenir restera comme un petit éclair de lumière fugace et d'un bonheur passager. » Voilà ce que disait l'Église dans la voix de Nedneuf en 1960. En voulant donc protéger les personnes contre la science, on impose une forme de totalitarisme contraire à toute notion de liberté individuelle. Alors, la dernière question qui se pose et qu'on peut poser, et je vais essayer d'abréger parce que je crois que je vais avoir dépassé mon temps d'intervention. Daniel m'avait donné une heure, donc bon, et comme je suis affreusement bavarde. La dernière question qui se pose en ces termes, c'est: la science est-elle morale et doit-elle être soumise au jugement d'experts en bioéthique? Alors, au risque de vous décevoir, et vous en doutez d'ailleurs, vous imaginez bien ma réponse, je vous répondrai non. Je vous répondrai, la science n'est ni vertueuse ni immorale, la science est amorale. Le rôle de la science n'est que de connaître les lois de la nature, de les expliquer, de les exposer, de les rendre audibles et compréhensibles. Ce qui peut être immoral, bien entendu, c'est l'application que l'on fait de la connaissance scientifique. C'est un autre problème, surtout quand derrière il y a des intérêts financiers. La science n'a pas à penser, elle n'a surtout pas à s'adapter à une quelconque idéologie, car l'idéologie est changeante, la science est évolutive. Certains voudraient la réduire, on le voit avec l'Église, avec les Églises en particulier, principalement l'Église catholique. Certains voudraient la réduire, la museler, car la science fait peur à tous ceux pour qui il est des vérités, qui sont indiscutables, et que la science, soyons-en sûrs, ne peut que remettre en question, voire ridiculiser, de par l'absurdité de leurs affirmations. Je vous parlais tout à l'heure de l'âme insufflée au 40e jour pour les garçons et au 90e jour pour les filles. C'est encore l'idéologie qui est véhiculée par ces deux religions, juive et musulmane. Donc soyons sérieux, je pense quand même qu'on peut en rire. Ça laisse quand même rêveur, et quand on voit qu'aujourd'hui l'âme serait dès la naissance, dès la fécondation pour les chrétiens, on se pose quand même un certain nombre de questions. À quatre cellules, je ne vois pas où pourrait être l'esprit, en tout cas dans ces quatre cellules existantes. Donc effectivement, relire aussi les principes bibliques qui nous disent « tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance hein, ». C'est pour ça que les femmes sont si bien vues dans l'Église, dans les religions monothéistes principalement, puisqu'il est bien évident que c'est Ève qui a osé toucher à l'arbre de la connaissance. Hein, elle n'a pas mangé la pomme, mais elle a bien touché à l'arbre de la connaissance. C'est bien là que le bât blesse les églises. De plus, donc, il est facile de discréditer la connaissance en s'attaquant directement aux scientifiques, quand l'idée chrétienne diffuse cette affirmation là aussi. Dans le monde de la science, il n'y a pas d'autrui, pas d'éthique. Dans le monde scientifique, il n'y a pas de valeur. Donc, comme si l'on confondait la moralité de la science avec l'immoralité des scientifiques. Mais si la science n'a pas à être morale, je le répète, on peut affirmer en tout cas une chose ici, c'est que les scientifiques, eux, ont un sens très aigu et une qualité rare, celle de la recherche permanente de la vérité par la connaissance et de la connaissance. Alors, je voudrais terminer en deux mots, donc pour vous donner une idée de ce que sont les comités d'éthique et leur rôle. Alors, pour revenir à leur rôle est donc bien celui de refonder la loi sur la morale, dans la recherche d'une morale universelle, ce qui revient à ce que je vous ai dit plus haut, ça consiste à la mainmise en place d'une entreprise totalitaire, et c'est surtout un retour à la reconnaissance des cultes ainsi qu'à l'esprit communautariste contraire à la laïcité de l'État. Alors les comités d'éthique, les principales personnes nommées dans ces comités d'éthique, ce sont 5 personnalités appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles, 19 personnalités choisies pour leurs compétences et leurs intérêts pour les problèmes éthiques, 15 personnalités appartenant au secteur de la recherche, et il est bien évident que malheureusement il n'y a pas seulement 5 personnalités religieuses, parce que dans ces comités d'éthique, on peut aussi choisir les scientifiques en fonction de leurs idéologies politiques et religieuses. Et je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Quand j'ai fait un travail sur l'euthanasie, donc j'ai beaucoup présenté en conférence, j'avais lu les écrits de 2 personnalités qui étaient membres du comité d'éthique de l'époque. C'était Maurice Abivène et Jean-Louis Debray. Et Maurice Abivène, qui disait dans son livre « Euthanasie et controverse », il disait « Ce qui a fait le plus de mal, la philosophie des Lumières, celle qui a fait le plus de mal à l'Occident ». Alors on voit tout de suite où est son idéologie, placer son idéologie. Et Jean-Louis Debray disait manipuler l'ADN était une transgression des lois divines. Ça vous donne à peu près une idée de ce que sont les comités d'éthique aujourd'hui. Je vous remercie.
Un grand merci à à Michel pour cette conférence. On va peut-être, pendant que vous réfléchissez aux questions que vous allez pouvoir poser, demander à Daniel de nous dire un mot sur le Comité laïque du Nord qui est à l'origine de cette exposition et de cette contribution à la Fête de la Science.